OK, troisième heure, on va parler recyclage. On met beaucoup d'efforts pour recycler. Je veux dire, encore en fin de semaine, là, tu sais, tu sors ton bac, puis bon, je veux dire, on s'applique. De façon générale, je pense qu'on fait, notre part. Et il n'y a rien qui m'enrage plus que de lire des reportages à l'effet que j'ai fait tout ça pour rien. Je ne dois pas être le seul, hein? Tu te dis, ben voyons donc. Et puis là, ben, il y a cette histoire-là, tu sais, les contenants multi, ils appellent ça multicouches, là. Bon, ben on en manque, là, au Québec. On est obligé d'en importer. Là, tu te dis, ben voyons donc, comment ça se fait qu'on est obligé d'importer de la matière recyclable? En tout cas, on va en parler. On va parler d'une très belle histoire, un organisme qui a été créé pour aider les personnes qui vivent des difficultés au niveau de la santé mentale. Puis c'est un papier de Rima El-Khoury dans la presse de la fin de semaine là, qui nous a donné cette idée-là. C'est vraiment une très, très belle histoire. Je vais vous demander aussi, est-ce que vous avez l'intention d'installer vos décorations de Noël plus tôt cette année? Ça, c'est une initiative personnelle de Larry, réalisateur, metteur en onde, qui me met de la petite musique des fois, qui m'arrive avec des effets spéciaux. Alors, est-ce que vous avez le goût cette année de... Ça va. Merci. On chante en chœur! La, 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 la. Oh, quand je me mets à chanter, le son baisse. Alors, est-ce que vous allez installer vos décorations de Noël plus tôt cette année? Parce qu'il paraît que c'est bon pour le moral. Et il y a le maire Labeaume à Québec qui a encouragé sa population à le faire. Alors, vous me direz si vous avez l'intention de le faire. Moi, j'y songe sérieusement. Et mais d'abord, on s'en va rejoindre M. Lavoie.
Oui, M. Drainville.
M. Lavoie.
J'aime ça t'entendre chanter, Bernard. Il y a quelque chose.
Bon. Vive le vent, bon, OK. Alors, Luc, on a parlé en début d'émission de ce cri du cœur des propriétaires de gym et autres salles de danse. Sauf que depuis qu'on s'en est parlé, il y a une information qui a été rendue publique par le journaliste Félix Séguin à l'effet qu'un des leaders de la coalition qui demande la réouverture des gyms est un Hells.
En effet. D'ailleurs, dans le reportage qu'on vient d'entendre tout à l'heure de notre collègue dans le bulletin de nouvelles, là, on l'entendait, ce membre en règle des Hells Angels, un nommé Christian Ménard. Il est vice-président aux opérations au Pro Gym de Montréal.
Et, il est membre du chapitre de Sherbrooke.
Oui, depuis très longtemps. Il a été accusé dans le passé de meurtre. Il s'en est sorti avec l'avortement du procès Shark.
Il a été accusé de meurtre?
Oui.
Wow, ça...
Attends une seconde, je vais même te le retrouver.
Oui, je vois ça. Là, Christian Ménard libéré des accusations de complot et de meurtre portées contre lui dans l'opération Shark.
Et voilà. Alors,
ça arrête pas de bien aller, mon Luc, là.
Mais c'est parce qu'au début de l'émission, quand tu as fait l'entrevue, il y avait une jeune dame, puis il y avait un gars qui lui est dans la danse, une dans le yoga, l'autre dans la danse.
Oui.
Et ils avaient l'air des enfants de cœur, ce qu'ils étaient probablement.
Ah, ce qu'ils sont.
Étaient probablement. Sauf qu'il n'est pas sûr qu'ils avaient réalisé que celui qui parlait en leur nom dans différents médias, c'était un gars des Hells Angels. Écoute, en avril 2009, il a été accusé de complot de meurtre, de trafic de drogue et de gangstérisme dans l'opération Shark. En plus du meurtre du bandit d'os Robert Léger, la couronne allègue qu'il contrôlerait le marché de la drogue dans les régions de Sherbrooke, Magog et Windsor en Ontario avec d'autres Hells.
Je rappelle qu'il a été accusé et non condamné, Luc. Hein?
Et voilà, t'as tout à fait raison. Alors, c'est parce que... Je pense à tant de secondes, je veux le retrouver. Il y a une source policière qui est citée par le Journal de Montréal. Et voici la citation. Maintenant, c'est anonyme. On parle d'une source policière. C'est vraiment la stupéfaction au niveau policier qu'un individu qui est membre en règle des Hells Angels se pose comme un possible interlocuteur avec le gouvernement.
On s'entend-tu que ça sort un bon moment pour le gouvernement à 3 heures du point de presse du premier ministre?
Oui, ben je trouve ça très triste. Je trouve ça très triste.
Tu trouves ça triste pour qui?
Ben pour la dame qui te parlait.
Ben oui, pour les propriétaires. propriétaires, ben oui, les gens honnêtes qui sont sans doute majoritaires, les propriétaires.
Moi, je pensais pas, puis je l'ai dit d'ailleurs, qu'il faudrait ouvrir les gyms, mais quoi qu'il en soit, les personnes que tu as interviewées n'avaient pas l'air des Hells Angels, ben.
Mais non.
Sauf que le gars qu'on entend à la radio partout, en leur nom, hein, c'est une association qui s'est créée, en leur nom, le gars, c'est un gars des Hells Angels. Et voilà. Ça va bien.
Hein? Bien sûr que ça va bien. Là, je veux juste te dire, ça vient de sortir, ça vient tout juste de m'être apporté, Luc. C'est le DPCP qui rend public sa décision après une analyse approfondie du jugement. On parle du jugement Normando. L'équipe des procureurs au dossier et le comité provincial des appels qui regroupe les procureurs et experts, etc., etc. Le DPCP a décidé de ne pas porter le jugement en appel. Donc, Nathalie Normando est bel et bien libre, mon cher ami, de toute accusation.
Fin d'un triste chapitre de notre histoire.
On referme cette parenthèse. Je voulais vous communiquer l'information. Bon, là, revenons à la COVID, Luc, parce qu'en fin de semaine, tu as dû sursauter comme moi quand tu as vu qu'il y avait un Québécois sur cinq qui adhérait aux thèses complotistes. Et quand on parle de thèses complotistes, là, on parle des vraies thèses complotistes, là. Par exemple, que c'est une invention du deep state, de l'état profond composé de satanistes et de pédophiles qui se servent du virus pour nous contrôler. T'as un Québécois sur cinq qui adhère à ça,
mon Luc. 5G est au cœur de ça, ne l'oublions pas. Puis Bill Gates est le grand maître en haut avec George Soros. Je suis tombé en bas de ma chaise. J'en venais pas. 20%, un Québécois sur cinq embarque dans ça.
Ouais.
Bernard, qu'est-ce qu'on fait?
Puis un sur quatre, alors c'est un sur cinq qui croit au Deep State. C'est un sur cinq. Un petit peu que je retrouve mes chiffres, là. C'est 25%, mon chum, qui croit aux thèses conspirationnistes de QAnon là, à propos de l'état profond. C'est 25%, c'est un sur quatre. C'est un sur quatre, c'est un sur trois chez les 18-34 ans qui croient aux thèses complotistes.
J'en viens pas. Je n'arrive pas à comprendre. Comment en vient-on à ça? Puis il y a eu toutes sortes d'analyses, de toutes sortes de façons. En fin de semaine, il y avait le chroniqueur Martineau, qui est bien connu, Richard Martineau, qui disait en bout de ligne, si tu veux, ils sont caves. mais il faut être un peu cave, Bernard, pour croire qu'il y a un complot pédophile et sataniste mondial pour prendre le contrôle de la population en leur injectant une puce. En fait, toutes ces conneries qu'on dit...
Mais j'arrive pas, moi, honnêtement, Luc, là, moi, je pense pas que tous les gens qui croient ça... sont des imbéciles, là. C'est, je peux pas accepter ça. Mais ils s'informent à des sources qui sont douteuses en maudit, qui colportent des mensonges. Et malheureusement, ils y croient. Ouais, mais là, Luc, tu sais comment ça marche, ces réseaux sociaux maintenant, là. Facebook, notamment, là, te donne ce que tu veux bien croire. C'est-à-dire que si tu pars là sur une certaine traque, là,
tu tombes d'un silo, puis là tu retrouves des gens qui pensent puis qui parlent comme toi.
Puis Facebook t'alimente avec des articles qui viennent confirmer.
Oui, tout à fait.
Tu comprends? Et donc, il faut réussir à se sortir de cette espèce de couloir-là pour élargir tes horizons puis être informé par autre chose que les médias dans lesquels tu crois déjà. C'est ça qu'il faut élucider. Comment on sort le monde?
Je le sais pas parce que nous sommes, toi et moi, là, ce qu'on fait présentement, c'est typique des médias traditionnels. On est dans une station de radio la plus connue de Montréal. On fait de la radio comme ça s'est toujours fait. Enfin, ça a évolué avec le temps. Et nous, là, pas toi et moi personnellement, mais nous, des médias traditionnels, on est effectivement une des cibles favorites de ces complotistes. Parce qu'on serait tous des menteurs, puis on serait payés en dessous de la table.
On participerait au grand complot, là, nous autres. Là.
Alors, le problème, il est là, Bernard, si tu dis, il faudrait qu'ils s'informent mieux, mais ils pensent qu'on est au départ une partie du problème. Alors,
c'est pas simple.
Je suis stupéfait.
Mais je te le dis, Luc. Alors là, la question la question suivante, puis j'en ai parlé ce matin dans ma petite chronique avec Paul Arcand, c'est que là, t'as un Québécois sur cinq, même un Québécois sur quatre, qui ne se retrouve pas dans les partis politiques existants. Et là, tu as le chroniqueur Éric Duhaime à Québec, qui est sur la radio Radio X à Québec, qui est une radio qui conteste ouvertement les consignes sanitaires. Je te dis pas qu'ils sont, qu'ils adhèrent à toutes les niaiseries complotistes dont on vient de parler, mais ils contestent le niveau de sévérité. Ils trouvent que le gouvernement va trop loin, etc., etc.
En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent, bon, les 25 % s'ils s'en viennent chez nous, là, nous autres, on est gagnants dans la guerre des
codes. Au niveau des codes d'écoute, ouais. Mais là, ce qui se passe, c'est que Éric Duhaime songe sérieusement à se présenter à la chefferie du Parti conservateur du Québec, qui est un parti qui a jamais levé, qui a fait 1,5 % du vote aux dernières élections. Et Éric Duhaime, moi, j'ai co-animé une émission de radio à Québec avec lui.
Je le connais très bien aussi.
Bon, c'est un gars, honnêtement, là, c'est un gars intelligent. C'est pas vrai, là, que c'est un fou
très
furieux.
Très intelligent, très cultivé aussi.
Bon.
Et très bon stratège politique. Oublie pas qu'en 2007, là, quand Mario Dumont est venu à un cheveu de gagner l'élection, là.
Duhaime faisait partie de son équipe de conseillers?
Ben, c'est un des principaux stratèges, bon. Effectivement.
Et donc, Duhaime est capable de voir le filon. Et là, il songe à se lancer à la chefferie. Puis évidemment, Luc, s'il se lance à la chefferie, il va devenir chef du Parti conservateur.
Et il va être le seul candidat.
Puis s'il n'est pas le seul, en tout cas, il va gagner. Parce que depuis que son nom circule, ça fait quelques jours, écoute, tu as 2000 personnes qui ont adhéré au Parti conservateur, qui ont payé 15$ pour adhérer au Parti conservateur du Québec. Il y en avait 700 qui étaient membres, ils sont rendus, il y en a 2000 nouveaux qui sont ajoutés en deux jours. Et puis là, moi, la raison pour laquelle je vous soumets ça, c'est pas parce que je suis d'accord avec Éric, c'est pas parce que je suis d'accord avec le courant qu'il représente, mais je vous soumets l'information, je vous dis que ça existe, et je vous dis qu'il y a quelqu'un qui pourrait harnacher ce courant-là et qui pourrait, à mon avis, Luc, s'il joue ses cartes comme faux, il pourrait aller chercher dans la région de Québec un 5, 10, peut-être 15 % d'appui.
Ah, je pense la même chose. Je pense que les gens vont être surpris si effectivement Éric décide d'aller en politique. Il sera plus le même polémiste qu'à la radio. Enfin, je sais pas comment il va approcher ça, mais je trouve qu'il est une voix très intéressante dans le débat, comme l'était Adrien Pouliot, là, qui était chef de ce parti qui a jamais levé de terre.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils amènent une forme de conservatisme qui n'a rien à voir avec le conservatisme social associé aux religions, puis à l'anti-avortement, puis pro-pandémie.
Ah non, j'étais en onde avec Éric quand Éric a déclaré officiellement qu'il était gay. On le fait ensemble, cette émission-là. Il est sorti du placard, comme le veut l'expression. Alors, Éric n'est pas du tout un conservateur social. Là.
Pas du tout, sauf qu'il est plutôt de la branche libertarienne du mouvement conservateur.
Exact.
Il y a une branche libertarienne qui est quand même intéressante, parce qu'elle conteste le gouvernement, elle conteste ses façons de faire. Ça, c'est de la bonne démocratie, ça, ce sont de bons débats.
C'est un courant
tout à fait légitime. Oui. Et je pense qu'Éric Duhaime peut apporter quelque chose. Comme toi, ça veut pas dire que j'appuie tout ce qu'il a dit, puis ta, 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 ta. Je reconnais juste que c'est un gars intelligent qui vaut la peine d'être entendu.
Et là, moi, je vous dis, suivez ça, parce que, évidemment, Luc, si jamais il décide d'y aller, puis il est en réflexion sérieuse, ça, je te l'assure, là, il est en réflexion sérieuse. J'ai parlé à des gens de son entourage qui me le confirment. Maintenant, s'il y va, puis mettons qu'il va chercher un 10-15 % du vote, ça veut pas dire qu'il se rend...
15 % à Québec.
À Québec, oui, c'est ouais. Ça. Non, mais... tu pars avec 10-15 %. Dans le fond, tu vas puiser dans le 20-25 % de Québécois dont on parlait il y a un instant, là, qui sont sceptiques ou même qui croient qui contestent les mesures ou même dans certains cas qui croient à la thèse du complot. Mettons que tu vas en chercher une bonne gang là, dans cette talle-là. Ben c'est sûr que tu peux, à partir de ça, construire quelque chose. Par exemple, autour du système de santé. Moi, je sais, pour l'avoir entendu, Éric fait partie de ceux qui pensent qu'on devrait introduire plus de privés dans le secteur de la santé.
C'est avec quoi je suis d'accord.
Et voilà, j'allais dire, la piètre performance de notre système de santé pendant cette pandémie, en tout cas, piètre performance, on peut débattre, mais certainement, une performance qui n'a pas été à la hauteur de l'argent qu'on y investit, peut amener des personnes comme Duhaime à dire le temps est venu de leur mettre en question ce système-là et de changer la façon de fonctionner, notamment en introduisant plus de privés.
Oui, tout à fait. Puis aussi le fait que Éric, oui, est quelqu'un qui croit que l'appareil gouvernemental est devenu sclérosé et paralysé. Et c'est drôle, hein, mais les 8 derniers mois nous ont tendance à démontrer qu'il a raison.
Bon, alors moi, encore une fois, je suis pas en train de vous dire que je suis d'accord avec Éric Duhaime, je suis d'accord avec sa façon de voir, mais je pense que le courant qu'il représente...
est légitime.
Et c'est un courant qui, en tout cas, sur la question de la santé, du fonctionnement du système de santé, sur le fait que l'État est devenu trop lourd, sur le fait qu'on paye trop d'impôts et tout le reste, c'est un courant de pensée qui est légitime.
Complètement, oui, bon. et qui est nécessaire à un juste débat.
Bon, alors là, on verra bien ce qu'il décidera, mais une chose est sûre, s'il va, c'est du vote à la CAQ qui s'en va chercher, mon cher ami Luc.
C'est bien
Luc,
évident,
là.
Surtout hein? Dans la région de Québec, où la CAQ ne pourra pas livrer son troisième lien. Je ne vois pas comment ils vont arriver à livrer ça. C'était la promesse centrale. Ils avaient promis qu'ils feraient la première pelletée de terre avant la fin du mandat.
Ah, pourtant, ils maintiennent leur engagement. Je l'ai encore vérifié la semaine passée.
Je comprends, mais on verra, Bernard. Ça fait 2 ans et demi qu'ils sont au pouvoir. Il leur reste un an et demi. Un peu plus de 2 ans. Il leur reste 2 ans. Il va en avoir les 6 prochains mois vont être des mois de gestion de la pandémie et de ses, ses lendemains.
Oui, justement, puis on ne sait pas quand on va se terminer. Mais je veux juste te dire, ils maintiennent qu'ils vont rendre public le projet du troisième lien, donc du tunnel sous le fleuve d'ici Noël. Mmh. Ils maintiennent qu'ils vont faire une annonce là-dessus et qu'ils vont aussi rattacher un coût à l'annonce.
Mais oublie pas comment ils étaient fermes dans leur promesse qu'il y aurait une première pelletée de terre avant la fin du mandat.
Ouais, ouais.
Ils ont insisté et insisté et insisté.
Mais peut-être ça va être le début des études et non pas le début de la construction.
Ben, c'est ça, hein? Encore des études.
Peut-être. On verra bien, Luc, on verra bien. On s'en va à la pause, on se reparle un peu plus tard. Hein?
Avec plaisir.
Après la pause, les décorations de Noël. Larry, musique. Alors, est-ce que vous allez les installer? Sérieux, là, il paraît que ça... Il y a des études là, qui disent que ça nous rend de bonne humeur. Comme la chanson vous rend sans doute de bonne humeur. Après la pause, je vais vous demander au 790-9850, est-ce que compte tenu de la pandémie, vous allez faire un petit effort pour égayer le paysage, pour mettre de la joie dans vos cœurs et puis donc accrocher vos décorations de Noël plus tôt que prévu cette année? Après la pause...